Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon meilleur invité, comme dirait Léonard, en l'espèce mon père, ou peut-être le DAF, qui, ma foi, est toujours aussi mignon.
Il pousse des soupirs de satisfaction.
Oui, de satisfaction. Alors aujourd'hui, on va vous parler du portefeuille financier de l'IDL, parce que je sais que vous en êtes friands, mais en amont de cela, on aimerait bien revenir un petit peu, enfin Charles va revenir sur ce qui lui apparaît en ce moment, la tendance financière sur les marchés et son appréciation des cycles. Donc ça va être ce dont on va parler aujourd'hui. En amont de cela, j'aurais aimé vous faire donc une petite annonce, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont posé la question, et ça revenait de façon récurrente, qu'ils aimeraient bien avoir une formation plus poussée et quelque part avoir une sorte de formation universitaire, peut-être de masterclass. On y a beaucoup réfléchi et on se demande, parce que pour tout vous dire, quand on a commencé il y a quoi, papa, 12 ans. Au début, c'était de faire connaître aux gens le libéralisme et faire connaître aux gens ta pensée.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point maintenant où les gens, c'est drôle sur Twitter quand je suis, disent « Ah ben, bienvenue Charles Gave, on t'a reconnu Charles Gave » et ainsi de suite. Donc, je pense que ça y est, maintenant, c'est identifié. Le branding, comme on dit en marketing, a été identifié. Donc, et j'ai l'impression que, en tout cas, pour ceux qui nous suivent depuis le début, ils ont eu accès à cette information et ils se sont éduqués. Je me dis que maintenant, on pourrait passer peut-être à des choses plus peut-être académiques,
structurées,
et faire peut-être un site où on outsourcerait, donc on sortirait de YouTube, parce qu'on a un petit peu des problèmes aussi avec YouTube accessoirement, pour avoir complètement notre autonomie. Et dans ces cas-là, on va vous solliciter aussi pour savoir est-ce que vous seriez prêt à nous soutenir un petit peu chaque mois, et on aura aussi des offres dans ces cas-là avec des conférences, avec des possibilités de rencontrer Charles Gave et ainsi de suite. Voilà, donc continuez à nous suivre, on va vous tenir au courant, on est en train de réfléchir à ça.
C'est pas du tout qu'on veuille faire fortune sur votre dos, c'est pas ça la question, c'est que...
Non, vous savez tous qu'on est financé par la Chine, de toute façon.
De toute façon, la Chine, et la CIA,
Israël,
il y a tout ce qu'il faut. Non, on a tous les financements qu'il faut, vous ne tracassez pas. D'ailleurs, je passe mon temps à faire savoir que je suis achetable et personne ne m'achète jamais.
C'est un des même Air Liquide, rien, il pourrait t'envoyer une petite action
de temps en temps, de bien séance, avec tout
le boulot.
J'ai fait pour eux, j'ai fait monter leur titre depuis 10 ans, mais enfin je me marre. Non mais, ce qui se passe, c'est que vous savez à quel point on est attaché à la liberté d'expression. Dans ces grands groupes GAFA qui étaient censés nous aider à mettre nos idées, et c'est vrai, ils nous ont aidés, il n'y a pas de problème, on sent bien que quand quelqu'un commence à gêner, ils ont des façons de je ne dis pas de vous faire parler, comme on disait autrefois avec les Allemands, mais de vous faire taire, quoi.
Bah de vous faire disparaître.
Et de là, vous faire disparaître lentement, de vous étrangler doucement.
Je me rends compte, puisque je m'occupe des commentaires, que beaucoup de gens me disent « je ne comprends pas, je m'étais abonné à la petite cloche, je ne reçois pas les choses ». Et nos chiffres sont inexplicables. Et j'ai ce sentiment...
qu'il y a quelqu'un qui aimerait qu'on parle moins de nous, quoi.
Non, mais j'ai peur qu'on se retrouve dans un goulot d'étranglement et que donc je préfère prendre les devants et faire quelque chose de propre, structuré, voilà, donc c'est dans cette approche, et pour faire quelque chose de positif, voilà, je veux pas qu'on se retrouve le dos au mur, sans possibilité. Et donc par ailleurs, je te dis, ça faisait très longtemps qu'on nous disait, est-ce que vous voudriez faire des leçons d'économie structurée et tout.
C'est une des ambitions de ma vie, ça a toujours été créer une espèce d'université, quoi.
Voilà, donc on va essayer de faire ça.
On va voir, en tout cas on va essayer. Et comme je dis toujours, le seul risque qui peut arriver quand vous essayez, c'est que vous vous cassiez la gueule. Mais on s'en remet.
Non, mais c'est bien.
Le pire, c'est de ne pas essayer.
Voilà. Alors, revenons un petit peu à ce dont on parlait au début, à savoir des cycles longs en économie. Il y a un papier que tu as commis il y a deux semaines maintenant.
Après les travaux, sur les travaux de Didier.
Voilà.
Et qui est extrêmement intéressant parce qu'on a trouvé, imaginez-vous, des statistiques. Il y en a une par an, mais ça, qui date de 1840 à peu près. Donc on a quand même maintenant, ça fait un siècle et demi à peu près de données, une par an, sur les grandes classes d'actifs, actions, obligations, cash, en France. Et or. Et donc on s'est posé la question, comment chacun de ces actifs a réagi aux grands événements politiques, sociaux, etc. des 150 dernières années. Alors, je vais vous faire une petite description historique parce que c'est très intéressant. De 1840, mettons, à 1914, on est en étalon or. Donc, la quantité de monnaie est réglée par la quantité d'or qu'il y a dans la Banque de France. Quoi. C'est une espèce de... Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette période de 1840 à 1914, les prix baissent, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une période déflationniste tout le temps. L'activité économique est assez forte, mais avec des variations brutales, c'est-à-dire qu'il y a des récessions tout le temps. Il n'y a pas d'inflation, mais il y a des récessions souvent. Et dans le fond, on peut dire que tout ce qui a un rendement positif monte. Donc, pendant toute cette période qui dure donc de 1840 à 1914, il faut tout avoir, immobilier, actions, obligations, tout sauf de l'or. Mmh. Parce que l'or, il vaut toujours un. Tu vois ce que je veux dire?
Il
faut tout avoir sauf de l'or.
En plus, il ne donne pas de dividendes.
Donc c'est vraiment le truc. Arrive la période 1914-1945, qui est la période des guerres. Et pendant cette période-là, si on regarde la performance de chacun de ces actifs, il ne faut rien avoir sauf de l'or. Mmh. Donc, tu imagines, toi, tu es un bon père de famille en 1914, tu laisses un héritage à tes enfants, et tu dis, ben, vous allez mettre ça en obligation de l'État français, parce que c'était très bien, je ne prends aucun risque. Moyennant quoi, dans les 30 ans qui perdent, tu perds 98% de ta valeur. C'est parce qu'on a changé littéralement de cycle historique. On est passé d'une forme d'organisation à une autre. Mmh. Puis alors, arrive 1945, et 1945 à 1962, à peu près, ou peut-être 72, enfin, ça, on discute, mais c'est à peu près ce moment-là. Tu es dans la période de reconstruction.
Oui.
Il faut avoir des actions, il faut avoir de l'immobilier et il faut travailler. Le salaire moyen monte énormément. Tu vois, c'est les 30 glorieuses, quoi. Donc tu peux avoir de l'or aussi, mais ce qu'il faut avoir, c'est des actions et de l'immobilier, quoi. Ça marche très bien à ce moment-là. Et puis arrive le choc pétrolier, 73-74. Et à ce moment-là, si tu veux, tu te fais massacrer sur les obligations. Et il faut avoir de l'or à nouveau. Et du cash. Mmh. Donc il faut avoir de l'or et du cash. Donc un portefeuille complètement différent de celui qu'il fallait avoir dans les 30 ans précédents.
Oui.
Et puis ensuite, tu arrives vers, mettons, 82, la grande inflation se termine. Tu as une période financière où les taux d'intérêt étaient très hauts à cause de l'inflation. Ils baissent pendant 20 ou 30 ans. Donc il faut avoir des obligations, il faut avoir des actions. Mais avoir de l'or, sûrement pas.
Non.
Et aujourd'hui, on est à nouveau en train de rentrer dans une nouvelle période qui ressemble fâcheusement un petit peu à celle de 1914, tu vois. C'est-à-dire, on se demande si on n'est pas en train de rentrer dans un temps des guerres, quoi.
Oui.
Il ne faut pas être très malin pour dire ça, mais enfin, ça fait rien.
Non, mais bon.
Mais malheureusement, c'est le cas. Et donc, d'après tous nos travaux, il faut avoir que de l'or et des actions, ce qui est un peu le portefeuille d'Institut des Libertés, d'ailleurs. Mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que vous voyez, mettons que vous ayez 40 ou 50 ans, ou vous pensez à votre épargne, hein, de 20 à 70 ans, allez. Vous pouvez sortir d'une période et rentrer dans une autre qui est complètement différente, et les banques, etc., vont vous donner les trucs qui ont marché depuis 40 ans. Mais ces trucs qui ont marché depuis 40 ans, c'est peut-être les pires qu'il faut avoir aujourd'hui.
Mmh.
Tu vois, c'est... Donc tu aurais été voir ta banque en 1914... Il t'aurait dit, cher monsieur, vous avez le 3% français garanti par l'État français, il ne peut rien avoir de mieux au monde. Moyennant quoi, tu perdais 95% dans les 30 ans qui suivaient. Donc, il y a deux choses dans la gestion. Il y a la gestion dans la période dans laquelle tu es, et il y a essayer de comprendre, est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'animal.
D'accord.
Mais ça arrive une fois toutes les lunes bleues, quoi. Ça n'arrive jamais, ce truc-là. Mais enfin, si, ça arrive quand même. Donc, ce qu'on essaie de faire dans nos travaux, c'est de dire, d'abord, est-ce qu'il y a un portefeuille qui résiste aux quatre? C'est le bruit, il y en a un, c'est l'espèce de où tu mets un quart en or, un quart en cash, un quart en obligation et un quart en action, et ça passe à peu près partout. On peut faire mieux que ça, mais enfin, c'est déjà pas mal. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire, toute l'épargne qui est gérée aujourd'hui dans le monde est gérée sur ce qui a marché depuis 30 ans, c'est-à-dire moitié action, moitié obligation. Et ça, depuis 3 ans, les actions, ça va bien, mais les obligations, t'en prends plein la tête.
Oui.
Et donc, il me semble qu'il y a un risque terrible que dans la crise qui arrive, on détruise les marchés obligataires simplement parce qu'on ne peut pas les rembourser. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'essaye de dire, et j'essaye d'être clair, c'est vous avez les marchés obligataires mondiaux, en particulier ceux de la zone de l'OCDE, États-Unis, France, Angleterre, etc., Italie, ont une capitalisation qui est très supérieure à la capitalisation des actions mondiales. Mais tu sais que la quasi-totalité des pays vont être incapables de repayer leurs dettes. Donc, si tu n'avais pas une fois tous les 30, 50 ou 70 ans, c'est ce que faisaient jouer les Juifs, ils avaient une espèce de tous les 70 ans,
ils jubilaient toutes les dettes,
simplement parce qu'ils faisaient ce calcul, que sinon ça ne pouvait pas marcher. Si je prends la dette espagnole sous Philippe II en 1540 ou je ne sais pas quoi, et que je dis, bon, la dette était tant, et je mets 3% d'intérêt et je capitalise, eh bien, aujourd'hui, cette dette espagnole vaudrait l'univers, quoi,
oui,
tu sais.
Oui, oui.
Parce que c'est pas possible. Donc, presque mathématiquement, il faut que la dette soit détruite une fois tous les 70 ans, quelque chose comme ça. Sinon, ça marche plus. Et si ça doit arriver, une période comme ça, c'est pas la peine d'avoir de la dette.
C'est pas la peine d'avoir de la dette, mais le problème, c'est que les 3/4 des personnes en ont déjà, et malgré elles.
Et malgré elle, et par exemple, si vous êtes dans un fonds de pension public, ben, les réglementations vous disent d'être à 50% dans la dette, ou 60%. Si vous allez à votre banque, ils vont vous mettre 60% en obligations françaises et 40%
en actions. Encore une fois, quand tu étais au conseil de SCOR...
Ils n'avaient pas le droit d'acheter autre chose que de la dette.
Et s'ils achetaient autre chose, ils devaient provisionner 2,5 fois...
Ils devaient mettre 3 ou 4 fois en capital.
En capital, ce qu'on mettait, comme une sorte de garantie à première demande, devant.
Devant. Donc, la réglementation est faite une fois de plus pour vous forcer à acheter ce que vous n'achèteriez pas sans ça. Donc, vous qui gérez votre propre épargne, vous n'avez aucune raison de suivre ces réglementations idiotes.
En fait, ça n'a pas tellement changé depuis les emprunts russes. Hein.
Les emprunts russes, tout le monde s'était précipité.
Oui, mais on s'est tous bien fait avoir.
Les gens parlent des emprunts russes, mais si tu regardes, tu as perdu 100%. Mais sur une obligation anglaise entre 1914 et 1970, t'as perdu 99%.
Oui.
Donc, il y en avait beaucoup plus. Donc tout le monde gueule contre les emprunts russes parce que c'était une faillite officielle. Mais là, c'était une faillite.
C'était une lente déliquescence vers le rien.
Vers rien.
Vers le nihilisme.
Tu allais asymptotiquement à zéro, tu sais. Mais personne ne parle de ça. Ou de les emprunts français de 1936 ou 37 qu'on avait pour leur réarmement et lutter contre l'Allemagne, etc., il y en avait plein. Ben, ils sont tombés à zéro, quoi. Ils sont pas à zéro, ils ont été remboursés à 1 franc, mais le 1 franc avait perdu 99% de sa valeur.
Oui, c'est ça.
Donc, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je sens, j'ai l'impression, puis c'est comme on me justifie beaucoup de nos travaux, c'est qu'on est en train de basculer d'une forme de période à une autre, c'est-à-dire la domination du dollar, tout ça c'est en train de sauter, l'émergence des briques. Donc on sait bien que la valeur relative des actifs va changer. Et il me semble que la valeur relative des obligations émises par les pays de l'OCDE ne peut pas ne pas se ratatiner par rapport à tous les autres actifs. L'or, les actions. Donc, pourquoi en avoir? C'est ce que j'essaie simplement de dire, quoi. Et je vois arriver gros comme une méno. Il y a cet animal de Le Maire qui est allé faire un tour, je sais pas quoi, il a découvert avec stupéfaction qu'il y avait des dépôts en cash dans les autres pays aussi. Mm-hmm. Il a dit, je sais plus combien, 30 000 milliards de dollars, ou je sais plus quel d'euros, je sais pas ce qu'il a dit. Et il salivait là-dessus en se disant, mais on pourrait prendre ça, on pourrait essayer de financer.
Alors, c'est bien que tu en parles, parce que ça allait être ma transition. Effectivement, moi aussi, ça m'a fait sauter au plafond. Je crois que c'était vendredi dernier, où M. Le Maire a dit, mais je boue, disait-il, c'est un coup de gueule, il était à la Commission européenne, en disant, mais comment ça, nous n'avons pas accès, nous, aux ressources des particuliers.
Dans le reste de l'Europe. Hein.
Dans le reste de l'Europe. À cette épargne, quelque part, on en avait parlé pour l'Inde, d'ailleurs, en disant qu'ils n'arrivaient pas à accéder suffisamment, mais il paraît d'ailleurs qu'ils reviennent dessus. Mais Et le maire s'est dit, ah bah dis donc, ça serait un truc de plus à essorer qu'on n'a pas essoré jusqu'à maintenant.
Ils ont essoré les Français.
Ils ont essoré les Français, il faut qu'on ait accès à cette épargne. Alors bien sûr, comme toujours, sous de merveilleux prétextes de renvoyer Greta à l'école, de lui faire des tresses, du développement durable, de s'emballer un Mars, d'El Niño, voilà. Oui. Mais en attendant, la question qui se pose effectivement, c'est que c'est un scénario à la Chypre.
Ben oui, c'est-à-dire, mettons que M. le maire ne réussisse pas à avoir accès aux comptes des Hollandais, par exemple. Mmh. Rien n'empêche, d'ailleurs, dans le système actuel, aux Hollandais de base, d'acheter des obligations françaises.
Mais pourquoi il ferait ça?
Non, mais il y a le temps de le faire.
Ah, oui,
mais
oui.
Ce que M. le maire veut, c'est forcer les Hollandais à acheter les obligations françaises. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent les acheter volontairement, mais comme ils ne sont pas fous, ils vont faire autre chose.
Bah, je pense bien.
Donc ce qu'il veut, c'est utiliser l'utiliser les dépôts pour les piquer. Mais ces dépôts qui sont dans les banques, contrairement à ce que M. le maire pense, c'est pas ces dépôts, c'est pas comme le gros tas d'or de Picsou dans le Calinage, vous savez, c'est quand les... Ils ont été prêtés à quelqu'un déjà.
Alors, ils ont été prêtés à quelqu'un. Et puis, tu as aussi des fonds
qui sont pas liquides,
qui sont conservés parce que, à tout moment, en cas de bank run, ouais. C'était l'histoire de ton copain qui disait mettez les lingots en devanture pour dire que les gens ne paniquent pas.
C'était JP Morgan, c'était pas mon copain, c'est John Pierpont Morgan, oui. Pourquoi tout le monde les voit? Non. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va arriver en France? C'est qu'on va pas réussir à faire venir cet argent de l'extérieur. C'est pour ça que M. le maire commence à se faire du souci. Donc, on va pas réussir à financer notre déficit budgétaire. D'après les calculs que j'ai faits, d'ailleurs, dans le deuxième papier, ça va être au minimum 300 milliards d'euros à lever par le gouvernement français cette année, en 2024. C'est-à-dire à peu près le double de l'an dernier. Bon, je vois pas comment ça passe.
Bah, le problème,
C'est 10% du PIB français, c'est 20% du PIB du secteur privé.
Notre balance des comptes courants
est
négative. On a un accroissement continu
des
dépenses publiques. Et à côté de ça, on s'est quand même pris, ces dernières années, des gilets jaunes, des insécurités la dernière fois
et
au mois de juin.
Et les 700 milliards de l'autre fou avec le Covid.
Et voilà, mais je veux dire, est-ce que si t'es un touriste lambda, le truc c'est les transferts de change. Et tu pourrais te dire, avant on avait des Américains,
peut-être.
Des Russes qui arrivaient avec des capitaux. Ce qui
ils venaient dépenser de l'argent ici, ça c'était le tourisme. Mais la réalité,
mais ça
c'est aujourd'hui,
ça
se ramène un petit peu d'argent. Mais par rapport à 300 milliards d'euros, c'est 20%. Du secteur, de la richesse créée par le secteur privé, à lever en une année.
C'est colossal.
Donc je ne sais pas si ça va passer, mais si ça ne passe pas, qu'est-ce que va faire M. le maire? Eh bien, il va aller dans vos comptes bancaires.
Alors c'est ça, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Français? Qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs
Le seul compte qui peut bloquer pour aller chercher du fric dedans, en partant du fait que c'est une... qu'il a le droit, puisque c'est...
Oui,
c'est,
plénipotentiaire.
Il peut faire ce qu'il veut, donc il va vous piquer. Donc, la première des choses, c'est, comme vous le savez, il ne peut pas vous piquer, je crois, en dessous de 100 000. Mais au-dessus de 100 000, tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros de dépôt, il peut vous les enlever en disant que vous n'en avez pas vraiment besoin.
Donc, si d'aventure, pour une raison X, vous aviez au-dessus de 100 000 euros qui dormiraient sur un compte parce que vous n'aimez pas les papiers, qui aiment les papiers, vous n'avez pas envie de remplir des trucs, très mauvaise idée.
Vous vous précipitez à votre banque et vous achetez un fonds de trésorerie en je ne sais pas quoi. Comme ça, ce sera nominatif à votre nom. Parce qu'il faut que vous sachiez un truc, c'est que si vous avez un dépôt à la banque, techniquement, vous avez prêté
dans les
de l'argent.
Écritures comptables.
Vous avez prêté de l'argent à la banque. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, cet argent, il est maintenant à la banque. Mmh. Et si la banque,
elle
ne peut pas vous payer, elle saute, et vous êtes comme les autres débiteurs
vous
de la banque.
Vous êtes marron comme Grosjean, vous n'avez
rien.
Vos yeux pour pleurer.
Donc première chose, au-dessus de 100 000. Deuxième chose, qu'on a vu à Chypre, ce qu'on a vu en Grèce, etc., c'est quand les banques sont fermées pour permettre à l'État de se financer sur vos comptes, ils ne vous donnent pas beaucoup d'argent pour vivre par semaine. Donc, ce que je dis aux gens, mais ça paraît complètement idiot, mais je suis désolé, c'est pas mon genre, c'est il faut acheter une boîte à chaussures et mettre à peu près en cash en billets dans la boîte à chaussures de quoi tenir un mois et demi des dépenses courantes, l'achetellerie, le pain.
Parce que toi, ce dont tu as peur, c'est que ça fasse comme en Chypre ou au Liban, quand c'est arrivé, c'est-à-dire d'un coup, les DAB ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'argent qui sort du trou.
Il n'y a plus d'argent qui sort du trou.
Ou alors, c'est ce qu'ils ont fait au Liban, ils disent, vous avez le droit
à 20 euros.
à, en gros, je crois que c'est 100 euros par semaine et en liquide, et débrouille-toi avec ça pour envoyer de l'argent à ta fille, pour ci, pour
c'est
ça.
C'est fini, on n'envoie plus d'argent à la fille. Donc à ce moment-là, il faut essayer d'avoir, je dis à peu près, justement un mois et demi de dépenses pour la nourriture, pour le taxi, pour enfin, tout ce que vous faites d'habitude, en cash dans une boîte à la maison. Donc, n'hésitez pas à aller dans le trou dans le mur ou aller à votre banque et dire je veux avoir X et de le mettre en réserve. Parce que...
Battez-vous avec votre banque, parce que je peux vous dire qu'une fois, moi j'ai voulu sortir, pour la même raison, 5000 euros en cash pour le mettre dans une boîte à chaussures. Et ma banquière me demandait, mais pourquoi vous voulez cet argent en cash? C'est pour faire quoi?
Ben, je lui faut toujours lui répondre, c'est que j'ai un petit ami de 20 ans, c'est fou ce qui me coûte cher. Comme ça, elle te fout la paix. Elle dit, ah oui, pour... elle a bien de la chance.
C'est pour prendre des bains en sloggy, tu sais, en me battant avec des billets de vin.
Non, mais c'est...
Donc, pour c'est faire vrai, c'est... Un clip de rap, tu sais.
Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que dans les 12 mois qui viennent, je suis pas... Je ne fais jamais de prévisions, parce que les prévisions, ça suppose que le futur est complètement incertain, etc. Mais si je regarde l'historique de l'endettement de la France, dans les deux ou trois derniers graphiques qui sont dans mon dernier papier, il y a une possibilité non négligeable que ça ne passe pas. C'est-à-dire que les marchés financiers n'acceptent plus. Bon. À ce moment-là, qu'est-ce que peut faire le gouvernement ? Il a quand même besoin d'argent pour payer tous ces braves gens. Il va les servir dans vos comptes. Et prenez l'exemple, vous avez une assurance vie dans lequel, malgré tous nos conseils, vous avez encore quelques obligations qui traînent, tu sais, des obligations classiques. Toi, tu vas dire, à partir du moment où tu te rends compte que la France va faire faillite, tu vas dire, bah, écoutez, vendez-moi tout ça. Mais il y a une loi qui a été passée par Sapin quand il était ministre, qui disait que ils peuvent bloquer le remboursement des assurances-vie. Donc, c'est-à-dire, tu dis, non, moi, vous êtes gentil, mais maintenant, je veux plus, je vous fais plus confiance. Ben, ils te disent, vous le gardez. Donc, tu ne peux plus le vendre. Même, il y a l'autre qui ronfle.
On fait un petit concert, là.
Il y a l'autre qui ronfle. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Entre bloquer les assurances-vie, aller vous piquer tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, et je ne sais pas quoi d'autre, peut-être ta boîte à chaussures, en attendant. Je pense que le portefeuille qu'on a constitué ensemble passera cette crise, sans trop de difficultés. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas dans une position impossible parce que vous n'avez pas de cash. Donc, c'est à ce moment-là, quand la crise fait mal, comme tu l'as dit au Liban, ou comme on l'a vu en Chypre, ou comme on l'a vu en Argentine, ben, c'est ceux qui avaient des billets en dollars qui ont continué à bouffer.
Bah, je vois, je parlais du Liban et d'envoyer de l'argent à sa fille, parce que ma fille qui est à Londres, sa roommate, comme on dit, la personne avec qui elle partage un appartement, ils sont trois, est libanaise. Et à l'origine, c'était son père qui était médecin au Liban, qui faisait vivre la famille. Et puis les salaires ont connu en proportion une telle dépréciation que maintenant c'est sa mère qui avait un boulot payé en US dollars, avec une valorisation US dollars,
au Liban,
qui fait vivre tout le monde et qui permet à sa fille à Londres de pouvoir continuer ses études. Qui était un petit salaire, elle faisait un 4/5e en décoration, en tant que décoratrice, elle réalise des printings, tu sais, des
oui.
Voilà. Bah, mais à quoi c'est dû? Alors que son père est un grand professeur
d'hôpital. Je me souviens très bien, j'avais été au Liban en 73, où ma sœur vivait à l'époque, etc. Eh bien, Ashrafieh, là, l'endroit, la grande rue et tout, c'était l'immobilier le plus cher du monde.
Ah mais oui, mais oui.
Donc l'immobilier ne baisse pas. Si, il y a des endroits où il a baissé. En Argentine, en 1890, c'était le niveau de vie le plus élevé du monde. Et vous regardez les immeubles haussmanniens de cette époque qui ont été faits à Buenos Aires quand vous allez dans le cimetière qui est une merveille d'ailleurs, ça pue le fric. Mais aujourd'hui, c'est complètement dilapidé, quoi. Les immeubles sont superbes, les vues sont magnifiques, mais vous vous rendez compte que c'est un pays qui s'appauvrit depuis 100 ans par mauvaise gestion.
Oui.
Donc, il faut introduire dans vos calculs le fait qu'on est peut-être géré par des clampins.
Je pense que de plus en plus de gens qui nous suivent s'en rendent compte. Est-ce que tu veux nous parler du graphique le marché français mesuré en euros et mesuré en or ?
C'est une autre question qu'on a beaucoup reçue. Alors, c'est donc dans ce graphique qui est là. On va vous le montrer.
Le premier graphique, on va le mettre...
Voilà.
Non, c'est pas la peine que tu le montres, on va D'accord. le mettre à l'antenne.
Alors, la plupart des gens me disent, c'est bizarre, tout va mal et la bourse de Paris monte. Tu sais, les valeurs en liquide est au plus haut. Bon, ça fait des années qu'elle est au plus haut.
Mais c'est vrai que la bourse marche très bien.
La bourse marche très bien. Et
quelques alors, actions
voilà. Et alors, très pourquoi hautes. Parce que vous, la première raison, c'est que vous regardez les grandes capitalisations du CAC 40. Hein, si vous enlevez les financières et les trucs comme ça. En 2000, il y avait 75% des profits qui étaient faits en Europe. Mmh. Nous sommes en 2024, il n'y en a plus que 40.
Ouais.
Donc, ces gars-là, comme j'ai essayé d'expliquer, ceux qui sont dans la liste idéale, sont des gars qui ont bien compris que l'Europe était plombée, et comme ils doivent raisonner à 10-20 ans pour leurs investissements, ils sont maintenant partout en Inde, en Chine, en Asie, ou partout où il faut être, et, ils sont en, et leur base européenne est en train de... Donc, les bénéfices sont superbes parce qu'ils ne sont plus en Europe.
D'accord.
Donc, c'est bien pour ça que je les ai achetés. J'ai acheté en disant des trucs, bah écoutez les gars, c'est pas la peine. De... Bon. La deuxième des choses, c'est que dans les marchés financiers, il y a deux sortes de hausses. Le marché monte parce que les bénéfices sont bons, les affaires vont bien, etc. Bon, ça c'est très bien. Et il y a la deuxième sorte de hausse qui monte parce que la monnaie dans laquelle tu mesures l'action se pète la gueule. Donc ça donne l'illusion, ce que j'appelle l'illusion monétaire ou une hausse de misère. Et si vous allez dans ce graphique, vous voyez qu'il y en a eu une vraie hausse. Des profits, etc., de 1985 à 2000, ce qui a duré donc 15 ans. Et je montre le graphique mesuré en euros et le graphique...
En or.
En or. L'euro est en rouge, l'or est en bleu.
Oui.
Et vous voyez qu'on a une vraie hausse, là, il n'y a pas de problème, les deux montent. Et puis vous voyez que depuis 2003-2004, avec l'euro qui commence à vasouiller, les États-Unis qui rentrent dans une grande crise financière, etc., on est passé officiellement de quelque chose comme 60 à 290, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 5 en euros, mais en or, on est plus bas. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle une fausse hausse. Tu aurais acheté de l'or, tu ferais mieux aujourd'hui, 10 ans après ou 20 ans après, que d'avoir tes actions.
Bien sûr.
Et donc, ça, c'est une fausse hausse. C'est pas que les actions sont montées, c'est que la monnaie dans laquelle tu mesures les actions s'est ratatinée. C'est comme si, j'imagine que la bourse de Francfort ou de Berlin montait comme une fusée quand il y avait l'hyperinflation en Allemagne.
Oui.
Mais ça n'empêche que tu pouvais voir, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Et tu l'as fait avec le dollar, le même ratio
ben avec le dollar, c'est à peu près comme l'euro.
C'est à peu près comme l'euro.
Ben les deux, ils ont à peu près...
Les deux systèmes d'exploitation étant corrompus.
Aucun des deux ne marche. Mais par contre, tu le ferais en monnaie chinoise, c'est beaucoup moins bien.
Oui.
Et alors, la deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, et j'arrive à ça, c'est que...
Alors oui, je voudrais rappeler, depuis les Gilets jaunes,
oui.
Charles a travaillé sur ce qu'il appelle un indice Gilets jaunes. Donc je vous rappelle...
Un indice des prix des
Gilets
jaunes.
Un indice des prix Gilets jaunes. C'est-à-dire en partant non pas de l'inflation que nous expliquent nos organismes de contrôle, mais en partant
ce que les gens font, c'est-à-dire en général... quand
Se
vous...
chauffer.
Se chauffer et bouger.
Se chauffer et bouger dans leur voiture et de l'alimentaire de base. C'est-à-dire
bouffer
que...
et se loger.
Voilà.
C'est les trois
Donc,
postes.
Le poste indice gilet jaune inclut ces postes qui sont incompressibles et qui, on vous l'a expliqué plein de fois, et ce qui tombe sous le sens, sont beaucoup plus lourds pour des personnes à petit budget. Il est certain qu'une hausse de l'alimentaire, quand vous êtes au SMIC, vous touche beaucoup plus que si vous gagnez 12 000 euros par mois.
Voilà.
Donc la hausse alimentaire n'est pas la même pour les uns et les autres.
Donc ce qu'on essaie de dire, c'est que l'inflation frappe, dans la mesure où elle est très souvent sur ces trois postes, énergie, loyer et bouffe, frappe beaucoup plus durement les petits... Alors, ce que j'ai fait dans ce graphique, c'est que je me suis dit, je vais prendre le revenu moyen du français de base, et je vais diviser ça non pas par l'indice des prix officiels,
oui.
mais par cet indice, un tiers. Et quand la ligne rouge est au-dessus de la ligne noire, ça veut dire que le niveau de vie baisse.
Oui.
De la catégorie, mettons des 25% des Français les plus pauvres, quoi. Ceux qui sont sans doute au salon de l'agriculture en train de gueuler en ce moment. Et vous voyez que depuis à peu près 2021, Il y a un véritable effondrement du niveau de vie des Français de base. C'est-à-dire qu'il y avait eu la première pète avec les Gilets jaunes, puis alors maintenant, c'est 10 fois ce qu'on a pris au moment des Gilets jaunes.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, en revanche, c'est pourquoi les gens on ne le voit pas plus, parce que les Gilets jaunes sont sortis dans la rue à un instant T. Et alors, est-ce que c'est parce que depuis le Covid...
Non, ce qui s'est passé, c'est un peu différent, c'est que le Gilet jaune, ça a été un mouvement de province. C'est-à-dire, ce que dit Guilly, là, ce géographe très brillant...
Christophe Guilly,
il dit, vous avez ceux qui bénéficient, mettons, de la mondialisation, qui sont au centre d'une zone urbaine, par exemple, ou d'une... au centre de Toulouse, au centre de Bordeaux, etc. Puis vous avez leurs domestiques qui sont en rond autour, qui sont les travailleurs immigrés, mettons, et leurs femmes. Et puis ça, c'est 50% de la population entre les deux. Et puis vous avez 50% de la population qui vit là-bas, loin, loin, où personne ne les regarde jamais. Et la révolte des Gilets jaunes, ça a été la révolte de cette troisième zone où personne ne va, parce que plus personne de maison là-bas. Les maisons, on les a à l'île de Ré ou à Saint-Tropez, mais on ne les a pas à Clermont-Ferrand, quoi. Ça n'a pas...
Oui, non.
J'ai rien contre Clermont-Ferrand. Donc, ça a été la première révolte. Elle a été très, très durement réprimée. Et on a, d'une certaine façon, la deuxième révolte. Ceux qui vivent toujours là-bas, c'est les paysans. Et on commence à avoir la révolte des paysans. Et la révolte des paysans partout en Europe. Hein.
Oui, c'est pas simple. Oui, bien sûr. Là, j'en voyais à Bruxelles, hier. Entre parenthèses, je pense que moi, si j'étais un agriculteur, j'irais direct à Bruxelles.
C'est pas la peine d'aller à Paris.
Ouais, oui. De toute façon, ils prennent le rang de Van der Leyen. Donc, elle est à Bruxelles, à la rigueur, à Strasbourg. Mais elle est là-bas, quoi.
Elle est là-bas.
Péter les roussons là-bas.
Pas la peine de nous embêter à Paris.
Non, je veux pas être embêté, parce que moi, je suis tout à fait solidaire de ce genre de mouvement. Mais c'est juste pour vraiment les embêter, eux, quoi.
C'est pour les embêter, eux. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est ce que je crains le plus, c'est que c'est cette baisse du niveau de vie qui arrive à cause de l'inflation et de la baisse de notre monnaie, qui sont inévitables, ça va frapper très, très, très durement les petites gens. Beaucoup plus que toi et moi, où on est là.
Oui, c'est ce qu'on explique. Et le problème aussi en France, c'est qu'on l'a vu depuis très longtemps, il n'y a pas eu de croissance des salaires. On est passé à l'euro depuis le passage à l'euro.
Regarde,
on se rend bien compte
l'euro,
que...
on n'arrête pas de baisser le niveau de vie, quoi. C'est le niveau de vie moyen après la défaillance. On a dû perdre entre 10 et 15% de notre niveau de vie. Et ça va continuer.
Ça me fait rire parce que les gens disent souvent « Oui, Charles Gave, c'est le type qui dit depuis 20 ans que l'euro, ça va être la merde. » Je lui dis « Mais vous avez regardé récemment, est-ce que vous avez vraiment la sensation de vivre mieux que vos parents ?»
Oui, mais qu'il y a 20 ans.
Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir devenir propriétaire ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez dans vos vies un facteur de sécurité de...
Est-ce que vos enfants travaillent en France ? Ben non, ils sont tous en train de...
Moi, je sais, j'ai une petite coiffeuse qui va prendre sa retraite, que j'aime beaucoup, Nathalie, si jamais elle me regarde, et elle me disait, bah voilà, il y a 20 ans, elle fait pareil, elle fait des brushings, des balayages, elle met des couleurs, et elle me disait, bon, bah il y a 20 ans, avec mon mari, on pouvait partir en club 2 fois par an, maintenant on prend des vacances 1 année sur 2, parce qu'on peut pas. Elle fait le même boulot, hein, elle est toujours dans un salon de coiffure dans le 8e, elle fait des mèches, elle fait des brushings. Pourquoi est-ce que son travail lui permettait, dans les années 90, de partir 2 fois par en club, et que maintenant elle peut plus prendre de vacances, et pas à cause de la responsabilité. Et avant, ils habitaient dans Paris, et maintenant elle a 1h30 avec un changement à Saint-Nazaire pour aller au
exactement,
travail.
C'est exactement ce qui se passe, et on voit bien. Et, alors en France, c'est visible donc avec les paysans, etc. Mais on va aux États-Unis, l'espérance de vie des hommes est en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'on est comme quand l'Union soviétique s'est effondrée. Il y a eu un véritable effondrement de l'espérance de vie des hommes parce que, quelque part, sont des petits animaux fragiles, les hommes. Les femmes résistent mieux.
Ah, mais tu sais, il suffit d'avoir vécu avec un homme et d'avoir contemplé un homme qui a un rhume. Et tu sais ce qu'est la douleur. De ce jour-là, moi, j'ai accouché 2 fois sans péridurale, mais ça n'a aucun... level up par rapport à un homme qui a un vrai rhume d'homme.
Oui, un vrai
là,
rhume
tu sais ce que c'est.
Il est vrai que les hommes sont des petites bêtes fragiles et que quand ça va pas bien du tout, ils peuvent se laisser mourir. Ça paraît dur ce que je dis, mais quand on regarde les statistiques aux États-Unis, on se rend bien compte que ça frappe les hommes de 45 à 70 ans qui ont l'impression que ben ils ont tout raté, qu'ils sont pas arrivés, parce que l'homme s'imagine qu'il va être le maître du monde, qu'il va élever une famille, qu'il se projette dans le futur, et puis s'il rate tout, si sa femme le quitte, si ben, il dit pff, à quoi bon, j'enlève la prise. Et y a beaucoup de gens qui enlèvent la prise, et tu le vois dans les statistiques de survie, et je trouve ça terrifiant, et c'est une responsabilité pour les hommes politiques. Ils n'ont même pas l'air d'en s'en rendre compte.
Non, mais écoute, plus que jamais, et on le voit, ça m'a fait rire parce que hier, il y avait pareil un tweet d'Olivier Faure, je sais pas si tu vois, c'est un qui disait « Oui, moi j'adore le sauciflard et boire un coup de rouge. » Et je me dis « Mais putain les gars, ils sont gaulés comme des choupa choups, c'est-à-dire ils ont des corps avec des grosses têtes et tout maigres, et ils t'expliquent une fois par an, quand il y a le salon de l'agriculture, qu'ils adorent l'odeur des aisselles dans les vestiaires et que le rugby, c'est formidable, et qu'ils boivent du sauciflard et du gros rouge. » Je dis « Mais à qui ?» Jean-Michel, non, pas à moi. Pas à moi. Tu lui files un Armagnac qui devient bleu, tu le sais.
Je les connais tous. Il y en a tout un tas à Paris. En général, ils ont été dans les bonnes écoles.
Même moi, je pense que je soulève plus lourd que lui à la gym. Quoi.
Non, plus, j'ai un monsieur fort, je ne sais pas du tout, je ne le connais pas, mais j'imagine qu'il doit être écolo comme tout, non ?
Mais bien sûr.
Et le saucisson, alors ? C'est pas écologique du tout.
Ça doit être non seulement
pas cachère. C'est pas haram.
C'est pas halal, oui.
C'est pas halal, donc c'est... Saucisson, c'est pas bien du tout. Il s'aliène les deux tiers de son électorat, là. Non, il est déjà petit, son électorat, donc n'exagérons rien. Mais...
Ouais, voilà.
Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ces périodes de basculement, si je devais résumer ça de façon rapide, je dirais, ce qui se passe, c'est que les rentiers... en prennent plein la tête, ceux qui vivent. Les fonctionnaires en prennent plein la tête. Les entrepreneurs et les actionnaires s'en sortent. Donc, tout le message que je donne aux jeunes, c'est ne rentrez pas dans le service public en vous disant comme ça, j'aurai une retraite à 60 ans. Je ne suis pas sûr qu'il restera un service public, mais par contre, je suis sûr que vous n'aurez pas de retraite à 60 ans ou à 65 ans ou 70 ans. Vous n'aurez pas de retraite, période. Donc, essayez de vous lancer, essayez de faire des trucs qui vous amusent, parce que la sécurité, il n'y en a pas dans ces périodes de transition. La propre de ces périodes-là, c'est que, comme disent les Chinois, la malédiction chinoise, c'est « puissiez-vous vivre dans une période intéressante ». C'est-à-dire que là, on vient de traverser une période qui n'a pas été intéressante, et où ces gars-là s'en sont mis plein la fouille, ils emmerdent tout le monde, mais c'est fini maintenant, c'est fini, leur pouvoir va tomber, c'est ça la bonne nouvelle. Ils vont cesser de nous emmerder.
Donc, on résume. Déclassement de la population plus que jamais. Oui. Nécessité pour ne pas se faire avoir, possiblement, de sortir. Si vous avez plus de 100 000 euros, placez-le.
Oui. Absolument.
Ou aussi bien, vous pouvez prendre un PEL et puis demander à votre banquier d'acheter du Air Liquide dont, faites attention, parce qu'on ne vous colle pas des obligations d'État, hein, quel que soit l'État, et garder du liquide chez vous, pour la bonne raison que si le système explose...
Il ne va pas exploser, mais il va se geler.
Il va se geler.
Vous n'aurez plus accès à votre argent.
Voilà. Bah, c'était, encore une fois, l'histoire de ton ami italien quand tu étais à la Banque de Suez, qui achetait de quoi pouvoir bouffer dans les Pouilles pendant une semaine avec une famille de 4 enfants. Bah, voilà,
c'est ça, il achetait des petites pièces d'or, comme ça, il en avait tous les jours. C'était en 73, ou 71, 72, l'or n'était pas monté depuis 100 ans, enfin 50 ans. Et il disait, oui, moi je suis, il était lombard. Tout le monde est passé en Lombardie, on a été envahi par tout le monde.
Avec une petite pièce.
Avec une petite pièce, le paysan vous nourrit. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que les monnaies, ce sont des conventions sociales.
Oui.
Ça n'a aucune réalité, une monnaie. Une pièce d'or, c'est une réalité. Le type regarde et dit oui, c'est de l'or, c'est bon. La monnaie, t'arrives avec un gros billet russe de 1917, ça n'intéresse pas les gens, quoi. Donc ça n'a aucune valeur, sauf l'idée que derrière, il y a un État qui sera capable de te rembourser.
Mmh.
Et donc, dans ces périodes de troubles, ce qui se passe, c'est que de très grandes monnaies, dans lesquelles il y avait de très grands marchés obligataires, disparaissent complètement. Mmh. Le marché obligataire russe, le marché obligataire allemand, ils ont disparu 100%, ça valait zéro. Puis le marché obligataire français et le marché obligataire anglais... De 1918 à 1978, à peu près, 60 ans, ils sont ils ont aussi disparu, ils sont passés à zéro. Tu vois ce que je veux dire, que l'obligation de 1918, bah, elle valait zéro en pouvoir d'achat. Hein. Donc, tu as eu quatre grands marchés obligataires qui, en l'espace de 50 ans, ont vu leur valeur d'achat baisser de 100%. Donc, c'est là où est le danger pour ceux qui ont de l'argent. Tu vois, c'est ce qu'il ne faut pas avoir. Et ce que ça te montre très bien, les études qu'on a fait sur les 140-150 dernières années avec Didier, c'est ce qui compte dans ces périodes, c'est de bien sélectionner ce que tu ne veux pas avoir. Et donc, je me tue à dire aux gens, c'est aujourd'hui, si vous tenez absolument à avoir des obligations, ayez-les avec des gens qui sont encore là dans 20 ans, comme la Chine, par exemple. Mais je ne suis pas du tout certain que la dette française sera encore quelques valeurs dans les 20 ans qui viennent. Donc c'est vraiment ça, c'est essayer d'identifier dans ces périodes de bouleversement énorme qui se passent tous les 70 ans ou je ne sais pas combien, quelle est la prochaine victime.
Voilà.
Donc c'est les obligations. Donc, j'espère que vous n'en avez plus des obligations françaises, d'après tout le mal qu'on en dit depuis des années.
Oui, alors là vraiment il faudrait faire exprès. Alors, quant à moi, j'ai décidé, dans la série de mes petits portraits, de porter mon attention, parce qu'on m'en parle souvent, sur un libéral français qui a fait beaucoup de bien à la Ve République, qui est Jacques Rueff.
Oui.
Alors, pour ceci, j'ai lu ce livre qui s'appelle « Un libéral français » publié aux éditions Odile Jacob de Gérard Minard. Alors, je recommande, mais je ne recommande que si vous avez vraiment de très bonnes connaissances en économie, parce que le propos n'est pas linéaire et à chaque page, en vérité, l'auteur reprend les thèses économiques, parce que c'est comme s'il était overwhelmed par ce dont il parle, donc il va revenir, oui, et puis en plus Rueff a développé ça, et puis alors il a développé ça, et puis il a développé ça, puis après il revient sur le truc linéaire, mais il t'a expliqué des trucs économiques en plein milieu du chapitre 2.
Ce qu'il faut dire sur Rueff, c'est qu'il avait, c'était un peu le docteur Jekyll et Mr. Hyde, parce que c'était celui qui avait conseiller Laval en 1934, quand Laval a fait une espèce de politique du franc fort à la trichée. Et donc, à ce moment-là, ben, ça nous a collé dans une récession et ça a amené le Front populaire en 36.
Ouais.
Parce que ce que voulait Rueff, c'est que les salaires baissent. Puisque le franc français était surévalué, il fallait que les salaires baissent pour ajuster le... Mais s'il y a une loi dans la nature, si tu veux, c'est que quand l'inflation monte, ça t'agace que ton salaire ne monte pas autant, mais enfin, l'essentiel, c'est que ça monte, mais que jamais quelqu'un n'accepte que son salaire passe de 100 à 80. Mmh. Ça, c'est une espèce de résistance totale.
Ah bah surtout en France.
Surtout en France, mais partout. C'est le truc de baisser le salaire, c'est un truc... Non, ça veut dire que je vaux au moins. Mmh. Tu vois, c'est presque...
C'est presque grégaire, oui.
Et donc, en 1934, il a commis une immense erreur, qui a été reprise d'ailleurs par... Trichet quelques années après, et c'est marrant, ils étaient tous les deux inspecteurs des finances, donc il a très bien analysé, ça c'est au débit, mais il a été dans tous les comités Théodule dans l'entre-deux-guerres, etc., sur la réforme du système monétaire international, sur tout ça. Il a très bien analysé les problèmes et il a très bien analysé aussi les problèmes qu'allait créer la domination du dollar. C'est lui qui avait créé l'idée de le privilège impérial du dollar, etc. Il a très bien conseillé De Gaulle au moment où De Gaulle est revenu pour justement avoir en 58, pour avoir une politique libérale, pour casser les monopoles, etc. Il a très bien fait ça. Et finalement... Je dirais que, si je devais faire une analyse de Rueff, je dirais qu'en théorie, la plupart des théories de Rueff, enfin, en théorie, c'était un esprit extrêmement intéressant. Quand il a essayé d'appliquer dans la pratique ces trucs en 34 avec Laval, ça a été moyennement intéressant parce que...
Je crois que ça a été plus... Attends, alors je vais reprendre, pour ceux qui ne connaissent pas Rueff, donc il est né le 23 août 1896, à la charnière des deux siècles, sous la présidence de Félix Faure et du gouvernement Jules Méline. Il est né à Paris et il est un enfant de l'Alsace à l'origine.
Attends, c'est important. C'est important parce que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que c'était un juif alsacien. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été extrêmement protégé par Pétain.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que Je ne dis pas ça pour ou bien, mais enfin, ça veut dire qu'il a connu aussi cette période d'avoir été un grand homme d'affaires, etc. Puis d'être un réprouvé pendant 4 ou 5 ans. Quoi. Ça a dû être assez douloureux pour lui.
Donc son père était chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne. Et son père s'occupe énormément de lui, de son développement intellectuel. Mmh. Et pour eux, à l'époque, le pinacle, c'est la géométrie. Parce que la géométrie demande rigueur, demande d'avoir un esprit qui se développe dans l'espace. Et le père pousse le jeune Jacques Rueff vraiment vers l'écriture. Et on a des écrits de Rueff qui remontent à ses 13 ans. Donc déjà, c'était des époques où on avait une grande idée de soi-même. Ce qui est bien.
Et on voulait que les enfants soient éduqués et on n'avait pas peur de les surcharger. Hein.
Voilà. Donc il obtient son baccalauréat en 1914 avec mention bien. En août 1915, alors qu'il a commencé en classe de mathématiques spéciales, Jacques Rueff est mobilisé par le 3e régiment d'artillerie à Joigny. Et quelques mois plus tard, il est envoyé comme élève officier à Fontainebleau. Promu aspirant, il se retrouve au front en janvier 1916. Il a 20 ans. On le décrit cheveux roux, yeux marrons, front large, visage ovale, et il mesure 1m69. Donc il fait la Somme en 1916, le chemin des dames.
Il s'en sort.
Il s'en sort. Donc il a vu des. Il rentrera de la guerre en disant : j'ai eu l'immense honneur de pouvoir commander et ça a fait de moi un homme. Je ne suis plus du tout le jeune garçon qui
c'est
est parti.
C'est rigolo parce que ça ressemble un petit peu au parcours, c'était des contemporains d'Alfred Sauvy. Qui a été aussi comme ça, qui a été présenté à Polytechnique, mais qui n'a pas pu le faire parce qu'il a été pilafé après la guerre. Mais enfin, c'était deux types tout à fait étonnants.
Il écrira alors : « Je suis parti un jour tout petit garçon et je suis rentré un homme car j'ai commandé. Quelle charge, quel honneur et quelle expérience j'ai acquise. » Polytechnique ouvre alors une classe spéciale 1919 pour accueillir.
Où il y aura Sauvy.
Ou pour accueillir ces messieurs. Il y est reçu en 1919. Au début, la première année, figure-toi, il voulait être biologiste et puis il tombe dans l'économie. Pour lui, il dira « Ma découverte fut celle de Léon Walras. »
D'accord.
Et l'Autrichien Karl Menger.
Oui, Karl Menger, c'est mieux. Walras, c'est moins bien.
Et donc, à cette époque-là, il tombe vraiment en amour de ce nouveau marginalisme. Pour vous, c'est en fait la remise en cause totale de cette idée qu'on devait évaluer les choses par la valeur travail.
Voilà.
Et c'est complètement que pour autant, nos amis de gauche continuent à utiliser. Bien qu'il y ait eu un siècle de découverte copernicienne.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre que la valeur est subjective.
Voilà. Et alors, à ce moment-là, il rencontre Bergson, qui a 63 ans, et il lui dit : « Maître, est-ce que je dois publier ce livre ? » Et Bergson lui dit : « Oui, assurément. » Et ça sera son premier petit ouvrage à l'époque. C'est « Les conditions du salut financier », qui est son premier article en 1925.
Il a beaucoup réfléchi sur les problèmes de monnaie.
Oui.
Vous savez à quel point ça m'intéresse, c'est pour ça, c'est un des rares économistes qui réfléchit sur la monnaie et non pas sur les bidouilles, les trucs en dessous, donc sur la nature conceptuelle de la monnaie. C'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par Rueff, parce qu'il essaye de comprendre ce que c'est la monnaie, ça c'est pas gagné. Hein.
Alors là on est en 1920 et c'est marrant parce que là, on revient un peu dans le concept de la loi de 73. À l'origine, le budget de l'État avait fixé à 41 milliards de francs le maximum légal d'émission de billets. Mais ce plafond a été dépassé largement sans que le Parlement soit au courant et ça avait été dissimulé par un jeu d'écriture, ce genre d'avance indirecte. Donc Édouard Henriot est mis devant cela et il dit : « Mais enfin, tout le monde le fait. Ça fait des années que tout le monde passe des jeux d'écriture et rajoute de la dette sous le tapis. » À l'époque, il y a un débat, c'est : doit-on ramener le franc à sa valeur de 1913 ? Ça, c'est le point de vue des revalorisateurs. Soit prendre acte de la perte de substance et le fixer à une nouvelle parité face à l'or.
C'est amusant parce qu'il y a eu le même débat en Angleterre et que la grande erreur économique de Churchill, ça a été de revaloriser l'or en 1923 au niveau où il était en 1914 et ça a foutu une dépression en Grande-Bretagne qui a été gigantesque.
Et ben nous, on s'est pris aussi une crise sur le franc en 1920, 1923, en 1924.
Mais nous, on dévaluait, nous.
Oui. Et en 1925, il est appelé à ce moment-là au gouvernement de Poincaré. Et Poincaré mettra 2 ans à se décider en faveur de la stabilisation. qui était ce qu'il voulait faire lui en disant il faut stabiliser, il faut favoriser les exportations. Donc qu'est-ce qui arrive? Hausse du taux d'escompte à 7,5. Les bons du Trésor aussi montent à 3,6. 6% pour les 1 an. Mais ça se passe bien quand même, on arrive à...
Et puis surtout, on a dévalué, la dévaluation pour le carré avait été forte, et donc la France commence à avoir des excédents de ses comptes courants monstrueux, oui.
Et à ce moment-là, avec la crise de 1929 et les grandes dépressions autour, ça a été véritablement le fond de décor pour l'activité de Rueff, qui va regarder ça avec son œil de monétariste de l'époque et en tirer pas mal de leçons. Et donc, on a à ce moment-là, effectivement, la crise de 29. On avait en 1926 un indice de bourse qui était à 100. Et en septembre 1929, c'est à 216. Donc, on est vraiment là dans une bourse, dans une bulle spéculative incroyable de l'époque. Donc là, oui, on parle de la dévaluation de l'livre sterling en 31, qui paramètre aussi l'onde de choc qui avait été commencée aux États-Unis. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'onde de choc qui commence en 29 dans la bourse américaine. Et en 31, la livre qui dévalue, qui dévisse.
Et à 34. Le dollar qui dévalue aussi contre l'or, ce qui était une monstruosité. Donc, il y a eu à cette époque-là, justement, c'est ce que j'essaie de dire dans ce qu'on disait tout à l'heure, qui a dégusté chaque fois que c'était grosso modo puisqu'on vous dévaluait les marchés obligataires contre l'or. Quoi.
Et alors, surtout, ça a amené des transferts d'or absolument gigantesques.
Gigantesques, absolument.
Donc, transferts d'or gigantesques de la Grande-Bretagne vers la France.
Puis de la France vers les États-Unis.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a la Credit Schwarz
qui
fait faillite en Allemagne.
En Autriche.
En Autriche. Et du coup, répercussion en Allemagne, qui déjà était dans des cycles déflationnistes, avec toujours la réparation qui leur collait. Tout ceci a permis à Rueff effectivement de se faire les dents et de voir véritablement in situ.
Il était dans tous les comités internationaux sur la dette, etc.
Oui.
À l'époque.
Lui,
c'était en même temps que Keynes. Il se retrouve.
Alors justement, il se retrouve à Genève en 1929. C'est un des seuls de son époque qui en fait a affronté Keynes de visu. Et ils se sont mis copieusement
sur la gueule,
mais voilà, gentiment.
Hein. C'était tous les deux des gros fonctionnaires.
C'était la question du débat avait été celle des transferts de l'Allemagne.
Ouais.
Et ils gardent le contact après, mais ils étaient vraiment en opposition. Pendant la guerre, il est réfugié à Annonay, en Ardèche. Il travaille avec René Courtin très vite, qui était un envoyé de De Gaulle. De Gaulle lui avait demandé, avec tout un tas d'autres, de commencer à réfléchir à un plan de relance de la France pour quand on aurait gagné, tu vois. Il assiste ensuite à l'agonie de la 4e République, comme tout le monde. Et quand en 58, quand Antoine Pinet est nommé, dans les deux semaines, il lui présente un programme de rénovation économique et financière.
Oui.
Il a 62 ans à l'époque. Pour dire, voilà, il faut passer... Alors, on est dans une époque où...
Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il fait ouvrir, par exemple, dans ce plan, il y avait un effondrement des droits de douane, c'est-à-dire qu'on est dans... Il y a les traités de Rome qui avaient été signés avant, prévoyaient tout ça, De Gaulle, bien qu'étant souverainiste et tout, il a accepté cette ouverture pour éviter que la France ne fasse l'erreur des années 1890-1990 de refuser de s'ouvrir au monde et du coup de passer en arrière, quoi, de devenir une puissance de second ordre.
En fait, ce qu'il essaie d'expliquer, et ça il l'explique bien dans le bouquin, à De Gaulle tout du long, c'est que toute création monétaire doit reposer sur une réelle création de richesse.
Voilà, de valeur.
De valeur. Donc faire
raison.
Marcher la planche à billets ne veut rien dire si derrière il n'y a pas eu de création.
Mais exactement, quelque chose de tout à fait calqué. Cette création de valeur, c'est là où il y a toute la différence entre les... C'est que si, par exemple, un socialiste va vous dire, si vous payez un professeur, il y a de la création de valeur.
Oui, non.
Mais à quel niveau, comment, etc. Donc, en principe, cette création de valeur dans le secteur public doit être compensée par un impôt qui est prélevé ici. Et c'est l'impôt qui paye, c'est pas la création de monnaie. Or, depuis 70 ans, maintenant, en France, toute dépense publique a tendance à être financée par la monnaie. Et plus par les impôts. Et c'est pour ça qu'on va se viander, quoi.
Et donc par l'inflation, et donc par
la perte de valeur de la monnaie.
Ouais.
Et donc, dans ce qu'on a fait, alors, c'est qu'on a dit, comme on fait toujours ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allier à l'Allemagne. On aura un taux de change fixe avec l'Allemagne, donc on pourra plus le faire. Et puis, c'était la plus grosse bêtise qui ait jamais été dite, parce que du coup, ça nous a permis d'emprunter 20 ans de plus au taux d'intérêt allemand. Mmh. Alors que normalement, si on avait été tout seul, nos taux d'intérêt seraient montés comme des fusées et on serait débarrassé de tous les corneaux il y a 25 ans. C'est-à-dire que là, les corneaux, comme je dis toujours, on a donné la clé de la cave à 20 aux alcooliques.
Et voilà.
Avec l'euro.
Et voilà, donc moi j'ai fait mon petit tour de Rueff. Il y a des choses intéressantes sur lui que tu veux.
Le
franc Pinet-Rueff.
Oui, le franc Pinet-Rueff, bah, ça c'était.
Ça, ça a été après quand ils après, ont dévalué
Rueff,
1%.
C'était, comme je dis, c'était un esprit qui a beaucoup réfléchi sur la monnaie. Et il était tout à fait partisan des talons or. C'est presque, si j'ose dire, vous essayez de faire un décalque en négatif, c'est le négatif de Keynes.
Oui.
C'est-à-dire, c'est, ah, donc. Il a été considéré comme le roi des crétins de 45 à 73-74. Et en 73-74, il a vu s'effondrer le keynésianisme avec la crise de l'énergie. Et là, il a eu quelques belles années d'agréables dans sa vie. Keynes était mort depuis longtemps. Mais c'est intellectuellement, c'est deux, et c'était deux écoles économiques, parce que ce que les Français doivent savoir, c'est qu'il y avait une école économique française qui était très puissante, et il y avait pas mal de différences avec les Anglais, justement, mais qu'à partir des années 45, avec le dollar, etc., il y avait des écoles économiques très intéressantes en Italie, en Autriche, en France, etc. Pour des raisons qui m'échappent, d'un seul coup, on ne s'est plus intéressé qu'aux Anglais, aux Américains. C'est-à-dire que l'économie a été complètement accaparée, l'économie comme réflexion a été complètement accaparée, alors que ce n'était pas du tout les meilleurs. Quoi.
Mais même remarque de la philosophie avec les Allemands.
Même la philosophie, c'est pareil. Et donc, la philosophie a été prise par les Allemands, l'économie par les Anglo-Saxons, et nous, on s'est retrouvés avec rien. Si, peut-être les romans. Tu vois, on a eu plein de prix Nobel, on a eu d'excellents romanciers, mais... C'est un peu triste, parce que, si j'ose dire, les économistes français méritaient pas ça.
Mais non, puisqu'il y avait des
véritables... Il y avait une vraie école.
C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est pour vous dire, mais où sont les dames du temps jadis?
Mais tu as c'est tout à fait raison, et c'est très bien de le faire. Mais il y a eu, si tu veux, il faudra peut-être qu'un jour on fasse aussi un truc sur Bastia, ou même... Sur Benjamin Constant, sur tout ça, il y a eu des tas de types.
Bastien, on l'a fait. Hein.
On l'a fait, oui, on l'a évoqué. Mais Rueff, c'était le dernier représentant de ce... Si, il y a eu Maurice Allais aussi, qui a eu un prix Nobel d'économie, parce qu'il avait, pour des tas de raisons. Mais il y avait. Et ils étaient souvent, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, en tout cas, étaient soit des facultés de droit, soit polytechniciens. C'était les deux sources de. Vous savez que Niels Bohr, qui a inventé un peu la physique moderne, avec l'époque d'Einstein et avant, avait commencé ses études au Danemark en économie, et il a arrêté parce que c'était trop compliqué. C'est pas une blague. Hein,
Non, mais ça dépend aussi beaucoup du professeur qui t'enseigne. Quelquefois, il y a des gens qui sont doués pour te rendre les choses très compliquées. Et inversement, si tu as un bon professeur...
Mais il est vrai que si tu veux avoir une certitude, la physique, c'est mieux que l'économie. Parce que si tu veux... Tu vois, l'économie, c'est toujours un truc... ça ne marche pas parce qu'il y a un nouveau phénomène qui est arrivé, un nouveau couillon qui a fait quelque chose ici. Oui. Tu n'as pas de certitude dans l'économie. C'est une branche de la logique, mais ce n'est pas une branche de la prédiction. Donc si tu veux quelque chose qui tienne bien la route, qui soit solide et tout, il vaut mieux faire de la physique, c'est vrai. Enfin, plus aujourd'hui, parce qu'en plus, un objet peut être à deux endroits à la fois. Alors ça, je jamais...
Oui, ou la théorie des cordes. Ou...
Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est quand tu vas à l'infiniment petit, un objet peut être différent à deux endroits différents à la fois. Bon, oui, en effet, c'est une idée intéressante, mais j'ai du mal à la concevoir, quoi. Voilà. Donc Rueff, c'est un esprit intéressant. Je ne l'ai jamais rencontré, mais s'il y a eu deux ou trois grandes figures à ce moment-là, qui avaient d'ailleurs un peu le même genre de formation, c'était Sauvier et c'était Rueff. Ça a été deux... Oui, voilà, ils ont eu beaucoup d'influence tous les deux sur moi d'ailleurs. Je les ai jamais rencontrés, à mon grand désespoir.
Bah oui, mais.
Ça fait rien, mais un intellectuel, c'est pas grave si tu le rencontres pas parce que tu le rencontres dans ses bouquins.
Exactement. Si. Oui, la rencontre se fait intellectuellement, je suis tout à fait d'accord.
La rencontre se fait, t'as pas besoin de lui toucher la main, tu t'en fous.
C'est un plus, mais voilà. Ouais. Écoutez, voilà, merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir suivis avec autant d'intérêt. N'oubliez pas de mettre des pouces. On est bien sûr sur Spotify, sur Deezer.
Dites-nous un petit peu comment vous organiseriez un petit peu nos efforts dans les années à venir, parce qu'on vous en a parlé ce matin. Il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait.
Voilà.
Aidez-nous.
à faire des masterclass. Voilà, je vous remercie beaucoup encore et à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.